Bien, je crois qu'on peut commencer. Je vais faire une série de trois leçons sur les algorithmes naturels qui constituent maintenant, disons, le cœur de mon projet de recherche. Et alors je vais commencer par des choses un peu simples, mais il y a un aspect un peu philosophique. Alors je vais démarrer par ça pour situer, disons, la problématique. Les thèmes qu'on aborde. D'abord, je vais parler de ce que c'est que la complexité. C'est quoi quelque chose qui est complexe ? Bon, 99% des gens sur Terre, c'est un truc complexe, ça veut dire que c'est difficile à comprendre. C'est une question sémantique. Bien sûr, pour les gens qui font la théorie du chaos, les mathématiciens appliqués, les physiciens, il y a aussi la difficulté de prédire, de connaître quelque chose, c'est une notion épistémologique, et c'est une autre mesure de ce qu'on appelle la complexité, un mot très galvaudé. Bien sûr, pour les informaticiens théoriques, il y a la difficulté de calculer la complexité algorithmique, complexité computationnelle. C'est une notion instrumentale. Ici, on a la complexité de replier une protéine, qui est NP complet. Et je parlais d'autre chose, c'est d'une complexité de la modélisation. Il y a des processus qui sont complexes, peut-être pour toutes les raisons précédentes, mais elles le sont aussi pour une raison différente, qui est philosophiquement très différente. C'est celle que, pour décrire le phénomène, pas pour le comprendre ou le prédire, ça c'est autre chose, mais rien que pour le décrire, c'est une affaire très complexe. Alors, la raison pour laquelle on trouve ça, surtout dans le monde vivant, à l'opposé de la physique ou de l'astronomie, de la chimie, c'est que moi, je considère que la biologie, c'est la physique qui rencontre l'histoire. Par l'histoire, je veux dire des millions d'années où l'évolution, la sélection naturelle a fait son œuvre. Et son œuvre, c'est quoi ? C'est surtout de briser les symétries. D'accord ? La puissance de la physique vient du fait qu'elle est modélisée parfaitement par les mathématiques. Et ça n'est pas un accident, c'est parce que les mathématiques, c'est l'étude des symétries. Et la physique, c'est en fait un univers d'invariance. Il y a un grand théorème de Noether et Minoether qui dit que l'invariance et la symétrie sont les mêmes choses. C'est les deux revers de la même médaille. Mais avec l'histoire, ça change tout. Alors, prenons un exemple. Vous trempez votre cuillère dans votre café bien chaud et la cuillère va se réchauffer. Si vous voulez comprendre ce phénomène-là, à quelle vitesse la cuillère se réchauffe, vous avez une équation de la chaleur. Et bon, peut-être de la résoudre, c'est difficile, hein, mais de décrire le processus mathématiquement est extrêmement simple. Il faut très peu de symboles. En LaTeX, c'est très simple. Et donc, la physique a une complexité descriptive très faible, et c'est ce qui en fait sa force. On peut écrire toutes les équations intéressantes sur une page. C'est quand même extraordinaire. En biologie, par contre, on n'a pas ça. D'accord ? Si vous regardez, par exemple, pourquoi les tomates, c'est rouge, c'est une approximation de l'algorithme, si vous voulez, de l'équation, mais ce n'est pas une équation, de l'algorithme qui explique pourquoi les tomates sont rouges. C'est très compliqué. Même pas à comprendre, c'est compliqué à écrire, à décrire. D'accord ? Descriptivement, c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle les algorithmes naturels. Et ce que je veux... Alors, l'hypothèse numéro un, j'ai deux hypothèses de travail. L'hypothèse numéro un, c'est que le monde vivant, le langage du monde vivant, il n'est pas celui de la physique ou de la chimie, c'est celui des algorithmes. D'accord ? Alors, bien sûr, ça a étudié de la chimie, de la physique et des mathématiques, absolument. Mais c'est essentiellement le langage des algorithmes. Alors, donc c'est pendant ces trois leçons, je vais parler de choses assez différentes, soit des oiseaux qui volent ou des particules qui font des choses. Et donc, je vais diviser ça en trois parties. Alors, je vais commencer par la chose peut-être la plus simple à expliquer et qui illustre le concept numéro 2, enfin, l'hypothèse de travail numéro 2 qui, pour moi, est absolument essentiel, c'est la suivante. C'est que quand on a une équation très compliquée et on veut la comprendre, on invente d'autres équations. Les mathématiques est un système clos. Hein, quand on fait des mathématiques, on ne va pas chercher dans la religion à un moment pour nous aider. Les mathématiques, quand on ne sait pas faire, on fait plus de mathématiques. D'accord ? Mais donc, pour étudier des équations, on utilise des équations. Et de même, pour étudier des algorithmes, on va utiliser des algorithmes. Alors, les gens vont me dire, mais ce n'est pas vrai. Il y a des tas d'exemples, si vous ouvrez les bouquins de Knuth, où on étudie le hachage, le tri, la recherche. ce sont des algorithmes et on les étudie en faisant des équations, en rêvant des équations. Absolument. Ce sont des algorithmes, de ce point de vue que je vais discuter, des algorithmes triviaux. Absolument triviaux. Et c'est pour ça qu'on peut les résoudre avec des équations. Mais dès que les algorithmes deviennent un petit peu sophistiqués, et dans le monde de la biologie, ils sont tous très sophistiqués, les équations ne marchent plus. D'accord ? Parce qu'on n'a plus ces symétries. Et donc, on va. Et donc, je vais donner trois exemples, au moins, où on va analyser des algorithmes naturels, pas par des équations, mais avec d'autres algorithmes. Alors, bien sûr, il y aura des équations, il y aura des mathématiques, hein, ce n'est pas un rejet de ça. Mais l'outil essentiel d'attaque, l'instrument d'attaque, ce sera les algorithmes. D'accord ? Donc, en ce sens, le langage des algorithmes est un langage clos. Alors, j'aime bien commencer cette discussion par cette expérience que Huygens a faite. Il s'intéressait à la navigation des bateaux et il voulait que les horloges se synchronisent. Alors, il y a cette expérience très classique, on fait de la physique. Vous avez trois métronomes, ils ont tous la même fréquence, mais ils ont des phases arbitraires, donc différentes. Et le truc, c'est qu'ils se parlent entre eux. Ça veut dire quoi ? Ils se parlent entre eux. Bon, il y a un bout de bois qui est sur des cannes de course. Alors chaque métronome a sa fréquence, mais il a sa phase. Et il va être à l'écoute des autres métronomes qui ont des phases différentes. Et donc, si on regarde ce qui se passe du point de vue physique, on voit que cette influence se traduit par une espèce de moyenne où chaque métronome fait une espèce de moyenne de sa propre phase avec celle des autres. Et si on attend un peu, assez rapidement, on verra que tout arrive en phase. On atteint le consensus. Alors ça, on veut savoir pourquoi. Il y a un compositeur, Ligeti, très connu, enfin, qui est mort, mais qui fait une espèce de concerto sur métronome synchrone. Et Sir Francis Drake était envoyé par la couronne d'Angleterre et il avait une réputation d'être d'aimer l'alcool. Et donc, quand il a écrit ce rapport à la cour en disant « J'ai vu un truc extraordinaire, j'étais près de la Thaïlande et j'ai vu un spectacle absolument sensationnel. J'étais près d'une rivière et j'ai vu des lucioles. » Il y avait des lucioles le long de la rivière, il y avait une montagne le long de la rivière, ça faisait des kilomètres et des kilomètres, et j'ai vu toutes ces lucioles qui sont mises à flash, à faire des éclairs, comme on dit, des éclairs de façon synchrone, toutes en même temps, sur des kilomètres. Mais comment ils font ça ? Alors, il a écrit ça, il était tellement enthousiaste, comme il avait une réputation d'alcoolique, les gens ont dit, ouais, c'est encore Drake qui a trop bu, donc ils ont mis ça à la poubelle, ils l'ont oublié. Et il a fallu des années et des années plus tard pour qu'on se rende compte qu'il avait raison. Il y a très peu d'endroits au monde où on peut faire ça. Il y a qu'en Asie à peu près, aux États-Unis un petit peu, mais ce n'est pas aussi impressionnant. En Malaisie, il y a des exemples où on trouve ça. Donc, d'avoir des lucioles qui font ça de façon synchrone, ça, on va dans le midi, on en voit partout. Mais ici, c'est sur des kilomètres, et surtout, il ne se voit pas. Donc on n'a pas le graphe complet d'influence entre toutes les lucioles. De plus, c'est un graphe dynamique. C'est-à-dire que le graphe change, le graphe d'influence va changer, parce qu'ils volent, ils tournent autour. Et pourtant, ils arrivent à se synchroniser. Je n'ai jamais vu en réalité, j'ai vu des films, c'est soi-disant très, très impressionnant. Alors, pourquoi ? Comment ils font ? D'accord ? Il n'y a pas de chef d'orchestre ici, hein, c'est eux. Alors, pour comprendre ça, en fait, ce n'est pas très compliqué, et on discutera de choses bien plus compliquées plus tard. On n'a même pas la peine... Bon, ça, c'est un système qu'on appelle endogène. C'est une boucle fermée, on peut étudier ça comme ça, mais ce n'est même pas la peine. On peut faire même des hypothèses encore plus générales, donc prouver des choses encore plus fortes. Et donc, je vais vous parler de ce modèle. Donc, vous avez des sommets qui sont fixés une fois pour toutes. On a n sommets. Ils ont des labels 1, 2, 3, n. D'accord ? Et on va considérer des graphes qui ne sont pas orientés. On fera orienter plus tard. Il n'y a pas de flèche sur les arêtes. Et considérons une suite infinie de graphes sur les mêmes sommets. D'accord ? Et c'est une suite arbitraire. Quand je dis arbitraire, je veux dire arbitraire. C'est n'importe quel graphe. D'accord ? Voilà. Bon, les graphes, Ici, je vous les donne avant, mais ce n'est pas la peine. Vous pouvez les... Ils peuvent arriver comme ça. Alors ça, c'est par exemple le graphe d'influence des lucioles au cours du temps. Au temps 1, c'est des temps discrets qu'on va faire. Au temps 0, G0, c'est le graphe d'influence des lucioles qui communiquent entre elles. G1, G2, ainsi de suite. D'accord ? Le cas des métronomes est extrêmement simple. Il n'y a qu'un seul graphe. C'est le graphe avec trois sommets, des métronomes qui se parlent entre eux. Et le graphe ne change jamais. Ce n'est pas très intéressant. Le coup des lucioles, c'est plus intéressant car les graphes changent. Alors, c'est peut-être important de savoir comment ils changent. Et on verra des exemples où c'est très important de voir comment ça change. Mais ici, ce n'est même pas la peine. On va pouvoir prouver des choses sans même se préoccuper comment ça change. Et donc, on va prendre une suite arbitraire. Et on va prouver que ça converge toujours complètement, même si c'est arbitraire. Donc, en particulier, dans un système endogène. Alors, voilà la dynamique, c'est la suivante. Vous plongez le premier graphe dans un espace. Alors, les lucioles, c'est un espace de dimension 3. Mais bon, ça peut être un espace de dimension arbitraire, D. Et après ça, vous considérez chaque graphe à tour de rôle. Donc, voici un. Et vous allez bouger le sommet, donc qui est plongé dans l'espace. Vous allez le bouger de façon arbitraire, mais il y a des contraintes. D'accord ? C'est quoi la contrainte ? Eh bien, c'est que chaque sommet doit bouger à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ses voisins. Donc, c'est une combinaison convexe de ses voisins. Donc, algébriquement, ça veut dire que... Je vais faire marcher ce truc-là. Chaque sommet, donc, reprend ses voisins, les VI, et fait une combinaison convexe. Donc, PI est une distribution de probabilité. Voilà. D'accord ? Ouais. Alors, on va considérer une contrainte, c'est que les PI doivent avoir une borne inférieure, qu'on va appeler par rho. Et on verra, c'est nécessaire d'avoir ça. D'accord ? C'est nécessaire d'avoir une borne inférieure. Je reviendrai à ça. Mais les PI sont arbitraires, sinon. D'accord ? Et ils peuvent changer de t égale 0, 1, 2, 3, ça va changer. Hein, c'est complètement arbitraire. Donc les graphes sont arbitraires et les PI sont arbitraires. Alors voici une illustration. G0, on a le premier graphe, il est plongé. Bon, ici, on est à deux dimensions, mais enfin, c'est pas, ça peut être n'importe où. Et on prend un sommet, hop, on regarde ses voisins, on prend l'enveloppe convexe, on va la diminuer un peu. C'est le fait d'avoir une borne inférieure sur les PI, l'équivalent géométrique, c'est de rétrécir un petit peu cette enveloppe convexe, et lui va pouvoir se déplacer n'importe où à l'intérieur de ce petit jardin-là. D'accord ? Il peut aller n'importe où. D'accord ? C'est les pays qui nous disent où ils vont. Mais ça doit être dans les voisins convexes. Et on fait ça pour tout le monde. Alors, ils bougent. Voilà, c'est étape numéro 1, ça. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on prend notre deuxième graphe et on répète, mais alors ça va être des pays différents, ben, c'est un graphe différent, d'accord ? Donc on répète la même opération, enfin le même genre d'opération. Et là aussi, le mouvement est arbitraire, mais la contrainte, vous devez rester dans l'enceinte convexe de vos voisins, c'est tout. Sinon, c'est arbitraire. Et vous faites ça pour toujours. Question, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça converge ? Et la réponse est oui, ça converge toujours. D'accord ? Peut-être qu'il faut définir ce que ça veut dire de converger. Parce que converger, ça ne veut pas dire que ça s'arrête de bouger. Des fois, oui, mais souvent, non. Donc, ça veut dire quoi, converger ? Un petit dessin, hop, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, ça va bouger à l'infini. Bon, mes compétences PowerPoint ne sont pas assez grandes pour que ça puisse bouger toujours à l'infini. Donc, imaginez simplement que ça bouge toujours, sauf que vous ne le voyez pas. Et donc, ils vont se rapprocher, c'est une limite à l'infini, où les choses, le système va, disons, se ralentir et plus rien ne va bouger. Voilà, à l'infini. Donc, visuellement, ça se fige. Et la convergence, on peut définir ça en prenant un epsilon, arbitrairement petit, 1 sur 1 milliard, si vous voulez, un paramètre. Mais pour ne pas encombrer les notations, on va supposer que epsilon, c'est une petite constante. Ce n'est pas forcément une constante, hein, mais bon, un tout petit epsilon. D'accord ? Et quand tous vos points, quand tous vos sommets, d'accord ? Ils sont à l'intérieur d'une boule, enfin, ou d'un disque ici de rayon epsilon, et qu'ils n'en sortent jamais, on dit qu'ils ont convergé vis-à-vis de epsilon. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, si vous faites epsilon carré, ben, ça convergera aussi. Enfin, il n'y a rien de miraculeux. Donc, visuellement, ça a convergé. Ensuite, ça ne va pas sauter à droite et tout. Non, c'est, d'accord ? Donc, c'est ça, la convergence. Donc, la suite 1 sur n converge vers 0, mais elle ne va jamais à 0. Bon, vous comprenez. Voilà. Alors, il y a deux sortes de convergence. Il y a celle que j'ai montrée, puis il y a celle-là. Ça, c'est une convergence qu'on aime bien. Ça ne se passe pas toujours, ce qu'on appelle le consensus, où ils ont tous le bon goût de venir tous ensemble. Alors ça, par exemple, c'est important pour les métronomes ou pour les lucioles. Quand ils se mettent à battre comme ça en synchronie, ça veut dire qu'en fait, ils sont tous ensemble. D'accord ? Parce que on est à deux dimensions, là, mais la dimension, ce n'est pas seulement géographie, ça peut être justement la phase, c'est une des dimensions, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le consensus. Alors, si on veut prouver quoi que ce soit, pourquoi on a rétréci l'enveloppe convexe un tout petit peu ? C'est essentiel de faire ça. Pourquoi ? Regardons ce système tout bête, tout simple. Il y a un seul graphe, qui se répète à l'infini, il consiste de deux sommets et une arête, d'accord, ici. Donc, c'est la première mise à jour. Donc, V1 se déplace à une distance, bon, si ça c'est 1, par exemple, c'est une distance ρ d'ici, donc V1 se rapproche de V2 par une distance de ρ. Pareil avec V2, donc les deux trucs se rapprochent. Bon, c'est évident que avant qu'ils soient très proches, bon, et ça converge vers le milieu. C'est évident, c'est symétrique comme système. Donc ça va converger quand V1 et V2 se rapprochent exponentiellement bon, à l'infini. Mais ils ne seront jamais identiques, V1 et V2. Ils vont se rapprocher. Mais c'est évident que toute notion de convergence, ça va prendre au moins 1 sur ρ, parce que bon, ça ne bouge pas plus que ρ à chaque fois. S'il y a une distance 1, il faut au moins 1 sur ρ avant qu'ils soient tout près. Donc, epsilon est 1 sur 4, ou 1 sur 10, ou 1 sur 10 milliards, il faut au moins 1 sur ρ. D'accord ? Donc, ça veut dire que la convergence est au moins inversement proportionnelle à ce ρ. Donc, si ce ρ est 0, il n'y aura pas de convergence. D'accord ? Donc, c'est essentiel d'avoir une borne inférieure, sinon on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Si ρ tend vers 0, ça va à l'infini. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle on va supposer qu'il y a. Et on s'attend certainement qu'un théorème de convergence qui dit ça converge en temps un tel, le temps doit être une fonction de quoi ? Enfin, une fonction de n, le nombre d'agents, enfin le nombre de sommets, de ρ, enfin de 1 sur ρ même, d'accord ? Et puis de epsilon aussi. Enfin, epsilon, on va supposer que c'est constant, et donc on ne va pas s'en soucier trop, d'accord ? Alors, il y a eu énormément de travaux là-dessus depuis des dizaines d'années. Hein, ce n'est pas à peine de revoir tout. Mais je crois que ça n'est pas injuste de dire que tous les, ou du moins, oui, vraiment tous les travaux là-dessus, ils étaient plutôt intéressés par le consensus. Enfin, ils font des hypothèses. D'accord ? Donc, des hypothèses qui ne sont pas forcément vraies, qui disent par exemple que le système est infiniment connecté. Alors, ça veut dire quoi ? Par exemple, quand vous prenez vos G0, G1, G2, G3, vous pouvez faire plusieurs hypothèses. Par exemple, une hypothèse, c'est de dire que tous les GI sont connectés, enfin, sont connexes. C'est une hypothèse possible. C'est un peu dur comme hypothèse, quand même, ça. C'est un peu fort. On peut l'alléger un peu. On peut dire tous les suffixes. Ah, c'est quoi un suffixe ? Eh bien, vous prenez l'union de tous les graphes GI, GI plus 1, GI plus 2, et ainsi de suite. Vous pouvez dire que toutes ces unions-là sont connexes. C'est beaucoup plus léger. Et ainsi de suite. Ça aussi, c'est peut-être un peu trop lourd. Il y a des tas comme ça de conditions qu'on peut mettre. Alors, il y a de gros problèmes, à mon avis, à avoir ces conditions. C'est un peu... de savoir si ces conditions sont vraies, c'est un petit peu le but du jeu. Alors, si on les suppose, ça enlève à peu près, à mon avis, l'essentiel de l'intérêt de la chose, d'accord ? Si on suppose que les lucioles se connectent tout le temps, oui, mais c'est justement ce qu'on veut savoir, d'accord ? Donc, ce qu'on veut, c'est des résultats qui n'aient aucune hypothèse de ce genre-là. Aucune, d'accord ? Et donc, quand je dis les GI sont arbitraires, ils sont vraiment arbitraires. Qu'ils soient connectés ou pas, ça ne change rien. Et je vais prouver que ça converge toujours, et je vais donner une borne sur ça, d'accord ? Donc, le théorème, il est inconditionnel, Et il dit que le nombre d'étapes non triviales est au plus ceci. Et c'est optimal, ça, d'accord ? C'est un résultat qui est optimal. Et alors, ça veut dire quoi, non trivial ? Ben, le système, généralement, bouge toujours. Donc, si vous dites que la convergence, le temps avant la convergence et le temps avant que tout s'arrête, ben, ça va être infini. Donc, c'est idiot comme définition. Donc, il faut très bien trouver une définition autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va dire, quand le système bouge par epsilon, eh bien, on va considérer ça comme une étape triviale. Et donc, on ne va pas la compter. D'accord ? On va uniquement compter les étapes où il y a un mouvement de plus de epsilon. Alors, epsilon peut être ce que vous voulez. Hein, ça peut être infiniment petit. Ça m'est égal. D'accord ? Et ça, je vais vous montrer, c'est indispensable comme hypothèse. Enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est une définition. Mais c'est la seule définition qui tienne. Pourquoi ? Regardez ce cas-là. C'est clair que ce système converge. Quand t est 0, vous avez ça. Bon, c'est le système qu'on avait avant. Ça va se rapprocher de ρ à chaque fois et ça va continuer. Et ça va converger vers le milieu. D'accord ? Au milieu de ce truc-là. Mais changeons ça. Supposons qu'au temps 0, on a ça, mais que pendant le temps 1 à 10 à la puissance... visuel là, 10 millions, un truc comme ça, il ne se passe rien. On a le graphe vide, il n'y a pas d'arête, il ne se passe rien du tout. Donc, on a l'impression que ça a convergé, mais ça n'a pas convergé du tout. Quand T dépasse ça, on remet l'arête. Vous vous souvenez, la suite est arbitraire. Donc cette suite est tout à fait acceptable. Ce système converge, c'est évident, il converge ici. Les deux sommets vont arriver ici. D'accord ? Et donc, c'est un système qui converge. Alors, je vais prouver que ça converge toujours, donc ça doit converger, très bien. Mais c'est évident que le temps est arbitraire. On ne peut pas avoir de bornes, puisque ce nombre-là peut être complètement arbitraire. Et il n'a aucun rapport avec les données du problème, avec n, avec ρ ou avec epsilon. D'accord ? Donc, ceci montre qu'on est bien forcé de ne compter que les étapes qui sont non triviales. Si rien ne bouge, on ne va pas compter ça. Et il ne faut pas le compter si on veut avoir la moindre chance d'avoir une borne. J'espère que c'est clair, ça. D'accord ? Ça, c'est dans les systèmes, justement, qui sont exogènes, où on ne fait aucune hypothèse sur les graphes GI. Alors, si vous faites des hypothèses, peut-être que vous pouvez changer ça. Alors, comment on fait pour prouver ce truc-là ? Donc, ça, c'est un théorème sur un algorithme simple, un algorithme distribué, simple. Et je vais vous montrer pourquoi ce théorème, on le prouve avec un autre algorithme. D'accord ? Alors, l'instrument de base, c'est une certaine fonction que j'appelle l'énergie S totale et qui est définie de la façon suivante. Bon, c'est un peu pénible, on va quand même voir ce qui se passe. On va prendre un paramètre S, d'accord ? Une variable S. On verra, c'est un peu comme une température, mais ce n'est pas à peine de l'appeler une température là. On va prendre une somme sur tous les temps, puis sur toutes les arêtes, et on va simplement prendre la distance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, au temps T, on prend toutes ces distances-là, et chaque distance, on la lève, on la met à la puissance S. Donc, on prend cette distance à la puissance S, plus cette distance à la distance S, plus cette distance à la puissance S, et ainsi de suite. Et on fait la somme sur toutes les arêtes, et après, on fait la somme sur tous les temps. D'accord ? Infini. Voilà, c'est ça. C'est une définition. Pourquoi c'est utile ? Bon, en tout cas, c'est une définition qui est bien fondée. Mais est-ce que c'est utile ? D'abord, est-ce que c'est fini, ce truc-là ? C'est pas évident. Par exemple, si S égale 0, c'est infini. Si S égale 0, eh bien, ça compte le nombre d'arêtes dans tout le système. Il y a une suite infinie, infinie de graphes. Ça serait bien miraculeux que ce ne soit pas infini, ce truc-là. Vos graphes, ils sont vraiment stupides si la somme des arêtes n'est pas infinie, alors qu'il y a un nombre infini de graphes. D'accord ? Donc, E de 0, ça va être infini, ce qui n'est pas très, c'est pas très utile de définir une fonction si elle est infinie partout. E de 1, c'est quoi ? Ben, E de 1, c'est combien d'encre vous devez acheter si vous voulez dessiner tous ces graphes-là. Voilà, ils sont plongés dans l'espace. Mais vous voulez les dessiner avec la peinture et tout, ben, il faut en acheter combien pour pouvoir les dessiner. Donc, c'est la somme de toutes les longueurs. Voilà. On peut interpréter toutes ces choses-là comme ça. Donc, là aussi, on aimerait bien que ce soit fini, ça. Alors, d'un point de vue analytique, c'est quoi, ça ? C'est une espèce de fonction génératrice, mais ce n'est pas une fonction génératrice linéaire. Donc, ce n'est pas comme une transformée de Laplace ou de Fourier ou tout ça, parce que ce n'est pas linéaire comme truc. On prend, il y a une puissance S, d'accord ? En fait, c'est ce qu'on appelle une série de Dirichlet généralisée. Donc, c'est facile de voir, on peut réécrire cette fonction de cette façon-là. D'accord, c'est facile de faire ça. Et ça, c'est utile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une théorie que le mathématicien Hardy a débuté, a commencé sur ces fonctions-là. Et par exemple, notamment, on sait que que cette fonction code toutes les longueurs des arêtes de façon sans perte. C'est-à-dire que si on utilise E de S comme un oracle, on peut récupérer toutes les arêtes. D'accord ? Donc c'est invertible. Il n'y a pas de perte d'information. Ça, c'est très important. C'est fonction génératrice, généralement, au moins, il ne faut pas que ça perde de l'information. D'accord ? Donc au moins, ça réunit cette première condition, que c'est on peut inverser. C'est inversable. Alors, une série de Dirichlet, il y en a au moins une que vous connaissez, tous, je suis sûr, c'est bien sûr la fonction de Riemann, la fonction zeta de Riemann, qui est donc définie comme ça. Et bien sûr, c'est la fonction génératrice, ce qu'on appelle la fonction génératrice des nombres premiers. Et pourquoi ? Parce que si on écrit n, si on décompose n en produit de ces facteurs premiers, on a cette expression. Regardez ça visuellement. Visuellement, ça, cette tête-là. Il se trouve qu'on peut écrire l'énergie totale de cette façon-là. Alors, on va voir ce qui se passe là-dedans. Mais pour l'instant, simplement, visuellement, regardez qu'il y a de grandes similarités. Ça commence par une somme, et après, on a un produit de trucs qui ont P sur K, bon, voilà. Donc, visuellement, c'est à peu près similaire, et c'est la raison pour laquelle, d'accord ? C'est précisément la raison pour laquelle j'ai défini cette fonction, d'accord ? Parce que ce n'est pas une fonction qui est vraiment courante, cette fonction S énergie. Le truc le plus proche, si vous connaissez un peu, c'est ce qu'on appelle la fonction de Ries. Ries a défini une fonction qui s'appelle le potentiel S, mais c'est une somme finie. La fonction de Ries. Ça, c'est une somme infinie, donc il y a quand même de grosses différences. Alors, l'exercice est utile de voir pourquoi, parce qu'on y reviendra. Pourquoi ça, en fait, c'est une espèce de fonction de Riemann généralisée. C'est important de comprendre ça. Alors, ça, c'est la définition. On peut la réécrire comme ça. Ça veut dire quoi ? Ben, c'est quoi ça ? C'est la distance entre le sommet I et le sommet J au temps T. C'est la distance. Et on prend ça à la puissance S. On peut écrire ça de façon vectorielle. Prenons simplement la matrice qui est N rangées et deux colonnes. Donc chaque rangée nous donne la position d'un nœud, la position du premier nœud en temps T, du dernier nœud en temps T. On peut bien sûr trouver un vecteur, une espèce de masque, qui va nous prendre ce qu'il faut ici. Donc on peut toujours trouver ce U, tel que ce machin-là soit égal à ça. Donc ça, c'est assez évident qu'on peut écrire ça de cette façon-là, d'accord ? Étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est quoi cette matrice ? Ben, c'est une matrice qui est 2 par 1, qui nous dit, c'est la matrice d'état du système. Mais quand on passe d'une configuration à une autre, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des combinaisons convexes. Mais combinaisons convexes, algébriquement, c'est multiplié par une matrice stochastique. D'accord ? C'est absolument rigoureusement équivalent. Donc pour passer de cette matrice-là qui est celle-là en temps 0, donc ça c'est x1 de 0, c'est les conditions initiales, et à chaque temps t égale 0, 1, 2, 3, 4, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le résultat par une certaine matrice stochastique. D'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à ça. Et donc, si vous remplacez maintenant là-dedans, eh bien, vous trouvez ceci. Et vous trouvez donc ce produit des matrices et puis un certain vecteur qu'on peut appeler Z. Donc voilà. Donc là, vous avez l'équivalence donc avec cette espèce de fonction qui ressemble à la fonction zeta de Riemann. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ah oui, alors on peut se poser des questions. Si la fonction de Riemann vous intéresse, zeta vous intéresse, on peut se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'elle a des propriétés similaires? Pour l'instant, cette fonction-là, on l'a définie uniquement pour les réels S. C'est infini pour certaines valeurs, par exemple S égale 0, mais on espère que ça va être fini pour d'autres valeurs. Enfin, c'est défini pour les réels. On peut bien sûr essayer de voir si on peut définir ça sur les nombres complexes, comme la fonction de Riemann, la fonction zeta. On peut toujours essayer, mais enfin, ça veut dire quoi, essayer, si c'est infini? La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut continuer, faire une continuation de cette fonction réelle dans le plan complexe et de voir ce qui se passe. Alors, en général, c'était évident que la réponse est non. Cette fonction-là, absolument, ça n'a aucune raison qu'on puisse en faire une continuation. Une fonction arbitraire, on ne peut pas les continuer. Mais par contre, on peut montrer que quand n est très petit, par exemple quand n est égal à 2, il y a une continuation de la fonction. Alors je l'ai dessinée pour vous ici. C'est l'amplitude dans le plan complexe. Donc c'est une fonction très jolie. Elle a des pôles. C'est une fonction méromorphique qui a un nombre infini, mais comptable, discret de pôles qui sont le long de l'axe imaginaire, tous les entiers. Et le reste, c'est très très bien, c'est très joli. L'intérêt de la chose, c'est quoi? Alors d'abord, c'est un problème ouvert. Je ne sais pas prouver, enfin, je conjecture, mais je ne sais pas prouver que, en règle générale, la fonction maximale, l'énergie maximale, donc c'est ça qu'on va définir. On est en dimension D, on est par exemple, les points sont dans une boîte de. Enfin, dans l'axe, enfin, dans la boîte 0,1 par exemple, hein, d'accord, donc c'est borné, et on veut maximiser l'énergie totale. D'accord. Donc on peut définir par compact tout ça, on peut définir cette fonction-là. Et la question, c'est de savoir, est-ce que cette fonction peut être continuée méromorphiquement? Et je pense que la raison, c'est oui, mais je ne peux pas le prouver en général. Et l'intérêt de la chose, c'est la suivante, c'est que si c'est le cas, alors on peut se poser des questions. Est-ce que, par exemple, il y a une équation fonctionnelle là-dessus, comme il y a pour la fonction de Riemann? Et ça, c'est intéressant, parce que si la réponse, c'est oui, ça veut dire qu'on peut alors extirper des symétries naturelles du cas pire de ce système, ce qui serait, je crois, au moins géométriquement très, très intéressant. Mais ça, c'est des problèmes ouverts, donc je vais les oublier un peu. Je vais vous montrer ce qui n'est pas ouvert, enfin, ce que j'ai prouvé. Et, ah oui, j'ai oublié de parler pour les références, je n'ai pas mis de référence. En fait, tout ça, c'est, vous pouvez trouver ça sur ma page web. Il y aura des pointeurs là où il faut, d'accord. Donc, je prouve la chose suivante, que cette fonction est bornée. Alors, revenons sur le cas des réels. Et en fait, c'est facile de voir dans les réels qu'il n'y a vraiment que l'intervalle 0,1 qui est intéressant. Les autres intervalles ne sont pas intéressants, d'accord, sont triviaux. Donc, on veut vraiment comprendre la valeur de cette fonction entre 0 et 1 pour un système arbitraire. Et donc, ce sont des bandes supérieures. Cette bande supérieure est optimale. Je peux prouver que c'est optimal. Ça, par contre, ça ne l'est sans doute pas. Je pense que le n au carré devrait être un n, pas un n au carré, mais je ne sais pas prouver ça. Si ça vous intéresse, je vous convie fortement à voir ce genre de choses. Ça serait très intéressant de prouver ça. Donc, je vais parler surtout de cette borne-là. Et donc, pour prouver ces choses-là, on va utiliser un algorithme. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de prouver ce truc-là. Pourquoi on a défini, j'ai pas encore parlé, pourquoi on a défini ce truc-là? Et quel est l'intérêt de la chose? Avant de parler de ça, je m'excuse, je vais une petite parenthèse qui est, on a vu quelques transparents précédents que, en fait, ça revient vraiment à comprendre des produits de matrices stochastiques. C'est un petit peu tout ce qui se passe. On a ces graphes-là qui arrivent et on multiplie des matrices stochastiques. On veut comprendre ce qui se passe. D'accord. Et donc, on a ces graphes qui arrivent, et on a donc ces mouvements convexes, ça se traduit par des produits des matrices algébriques. Donc vous imaginez une série infinie, une suite infinie de matrices, on va les multiplier sur la gauche, d'accord ? Comme ça. Et on veut savoir ce qui se passe. Supposons que toutes les matrices soient identiques. Elles sont toutes égales à P. Donc, on s'intéresse aux puissances d'une matrice. P, P au carré, P cube. Ça, c'est la théorie des chaînes de Markov. D'accord ? Donc, quoi qu'on fasse, on devrait être capable de relire toute la théorie des chaînes de Markov en cas particulier. Le cas particulier où on a toutes les matrices sont les mêmes. D'accord ? Alors, si vous êtes un peu familier avec les chaînes de Markov, ce que je vais supposer, vous savez que dans l'étude des chaînes de Markov, il y a une subdivision essentielle entre les systèmes réversibles et ceux qui ne le sont pas. Quand on fait la biologie, les systèmes réversibles sont très très importants, hein, parce que la réversibilité, ça veut dire que quand le système est en équilibre et qu'on le regarde, on ne peut pas savoir, le temps n'a pas de direction. On ne peut pas savoir si le temps progresse positivement ou négativement. Ou si je fais un film et que je vous passe le film en sens arrière, vous ne pouvez pas vous en apercevoir. C'est ça la réversibilité, d'où le nom. Mais évidemment, ça ne se passe que quand le système est à l'équilibre. D'accord ? Et l'équilibre est unique. Alors, comme on a des produits de matrice stochastique, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un équivalent de la réversibilité ? Les chaînes de Markov, il faut que toutes les matrices soient les mêmes. Ici, elles ne sont pas les mêmes. Eh bien, la réponse est oui, on peut définir effectivement une notion de réversibilité qui contient, comme cas particulier, le cas réversible des chaînes de Markov. Et l'énergie devient bien meilleure, elle devient polynomiale. Et ça, c'est optimal. Alors, reprenons le cas des chaînes de Markov. La réversibilité, c'est bien joli, parce que ça, en physique, en biologie et en chimie, c'est extrêmement fréquent. Mais le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est que la réversibilité, ça a de gros avantages. Les systèmes se mélangent bien plus rapidement. Et la raison est que... Et puis, c'est pas que la seule raison. Il y a aussi une raison méthodologique. Que, grosso modo, les systèmes réversibles sont diagonalisables, grosso modo. D'accord ? Et ça veut dire quoi, diagonalisable ? Ça veut dire qu'on peut réduire la dimension. D'accord ? Ça, c'est un petit peu un truc philosophique. Mais le point essentiel de l'algèbre linéaire, c'est de réduire une haute dimension en dimension 1, ou dimension 2, en très petite dimension. C'est ça, c'est l'essentiel de l'algèbre linéaire, d'accord ? Et donc, quand une matrice n'est pas forcément diagonalisable, mais si elles sont réversibles, elles le sont. Et là, donc, on regarde les valeurs propres, et ensuite, crac, on peut avoir des théorèmes de convergence bien plus rapides. Alors, c'est ce qui va se passer, et effectivement, l'énergie totale des systèmes réversibles. Alors, je n'ai pas défini les systèmes réversibles, c'est un peu technique, mais bon, ce n'est pas vraiment le lieu et l'endroit, le lieu et le moment de faire ça. Mais simplement, il y a un équivalent, donc, hein, des systèmes réversibles, des chaînes de Markov réversibles, et on trouve que l'énergie, si vous vous souvenez, avant, la puissance était n, n moins 1. Ici, c'est s qui est entre 0 et 1. Donc, c'est une énergie qui est polynomiale dans 1 sur rho. C'est fondamentalement différent. Et j'ai dit que ça, c'était optimal, oui, parce qu'avec ça, vous pouvez retrouver tous les théorèmes de convergence des chaînes réversibles de Markov. D'accord ? Donc, il y a des bouquets entiers, vous en avez, toutes peuvent être retrouvées de ça. Et même des chaînes qui ne sont pas réversibles. Par exemple, une chaîne de Markov réversible, généralement, converge en temps polynomial. Une chaîne qui n'est pas réversible peut être exponentielle. Donc c'est une grosse différence, les chaînes non réversibles. Et en biologie, c'est très important. Ça. Si ça prend un temps exponentiel, vos expériences, vous n'aurez jamais l'équilibre. Et donc, c'est une notion très importante. Alors, quel est le rapport entre cette énergie et ces théorèmes de convergence ? Ben, c'est le même, si vous connaissez ce que c'est les bornes de Chernoff ou de Hövding, ou il y a des tas de bornes comme ça en analyse fonctionnelle sur les queues de distribution de probabilité, et ben c'est l'équivalent. D'accord ? C'est, dans le cas des probabilités, Chernoff, c'est la fonction génératrice des moments. C'est comme ça qu'on dit moment generating function. Et ben là, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour ces systèmes-là. Donc c'est pour la même raison qu'on a des bornes de Tchernoff sur la convergence de certains systèmes indépendants, eh bien, on va avoir, on va utiliser l'énergie totale pour avoir des résultats de convergence sur ces systèmes-là. D'accord ? Ça, c'est un truc technique, c'est pas la peine d'en parler. Revenons à cette énergie. Il faut la borner. Comment on fait ? Donc, c'est vraiment l'essentiel, c'est borner cette énergie. Alors, la première observation, c'est que alors, l'énergie, vous vous souvenez, c'est grosso modo la somme de toutes ces longueurs à la puissance S sur tous les graphes possibles. Alors, on va définir une énergie cousine qui est très similaire, mais qui n'est pas tout à fait la même, qu'on va appeler l'énergie cinétique. Et on va borner l'énergie cinétique, et bon, ensuite, vous pouvez prouver que si vous savez borner l'énergie cinétique, vous savez borner l'énergie totale. Ça, je vais sauter ça, d'accord ? Ce n'est pas très difficile. On va donc se concentrer sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi ? C'est ça. Ah oui, bon, ça, c'est l'expression algébrique, mais en français courant, c'est quoi ? Eh bien, c'est même peut-être même plus simple que ce truc-là. Vous prenez chaque sommet et vous voyez où il se déplace. Ça, c'est simplement le déplacement. Il s'est déplacé de... Le sommet numéro I s'est déplacé d'ici à là. Vous prenez la distance euclidienne et vous faites ça à la puissance S. Donc, si vous, vous êtes les sommets du graphe, vous allez bouger un peu de temps 0 au temps 1. On va mesurer de combien vous avez bougé. On va prendre ça à la puissance S. On va additionner tout ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. On pense que c'est peut-être un peu plus petit. Enfin, on ne sait pas. Mais... Faites-moi confiance, c'est très voisin. D'accord ? Donc, on va uniquement regarder l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, donc, c'est ça. Donc, ici, par exemple, vous êtes G0. Donc, ça va bouger. Donc, ça bouge ici. Ça bouge là, ça bouge là, ça bouge là. Bon, c'est en temps, au temps 0, ils ont tous bougé comme ça. C'est la trace que j'ai mis. D'accord ? Et on va donc prendre ça à la puissance S, on va additionner tout ça et on va répéter et additionner tout ça. D'accord ? Vous avez bien compris, c'est ça l'énergie cinétique. Pourquoi c'est borné ce truc-là ? Alors, essayons d'avoir un peu d'intuition pour voir ce qui se passe là. C'est un système, c'est un système dissipatif, mais c'est... l'enveloppe convexe du tout ne peut que diminuer. Parce que tout ne peut bouger qu'en prenant l'enveloppe convexe des voisins. Donc c'est évident, si vous prenez l'enveloppe convexe de tout ça, c'est que ça ne bouge pas, mais ça ne peut pas grandir. Ça, je pense qu'intuitivement, c'est clair. Donc, il semble que les points qui sont sur la périphérie, ils vont sans doute bouger vers l'intérieur, à une certaine vitesse peut-être. Par contre, ceux qui sont au milieu, ils peuvent aller n'importe où. Hein, ils peuvent être balancés à droite, à gauche, en haut, à droite, et tout ça, d'accord ? Alors, gardons cette image en tête. Elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle va quand même aider. Alors, voilà ce qu'on voudrait faire, mais ça ne va pas marcher. Mais voilà ce qu'on voudrait faire. On voudrait faire, ben écoutez, chaque sommet va payer pour sa contribution à l'énergie cinétique. La contribution à l'énergie cinétique, c'est simplement le trajet, la distance qu'il parcourt. Eh bien, alors, donnons une tirelire à chaque sommet, et quand il va bouger, ben, il va débourser de sa tirelire l'argent correspondant à la distance qu'il parcourt. D'accord ? Si on arrive à prouver que les tirelires ne sont jamais en banqueroute, n'arrivent jamais à zéro, eh bien, alors, tout est bien. L'argent des tirelires au début nous donnera une bonne supérieure sur l'énergie cinétique. Ça semble assez évident, d'accord ? Mais ça ne marche pas, ça. Cette idée, malheureusement, ne marche pas. Ça serait un peu l'idée d'avoir une énergie d'une fonction de Lyapunov, et ça ne marche pas pour des raisons très, très profondes. On y reviendra. C'est là que l'algorithme arrive. Parce que ça, on essaie encore de faire des mathématiques, là, en disant, on vous donne une espèce de fonction de potentiel, et ça ne va que descendre, et ça va aller à zéro, tout va très bien, c'est fini. Non, c'est trop simpliste. C'est beaucoup plus subtil ce qui se passe là. Revenons à notre image. Les sommets qui sont sur la périphérie, ils vont vers l'intérieur. Ceux qui sont au milieu, ils font des tas de trucs à droite et à gauche. Donc, a priori, ça voudrait dire la tirelire de ceux qui sont à l'intérieur, on va leur donner beaucoup d'argent, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Mais ceux qui sont à l'extérieur, eux, ils vont que bouger vers l'intérieur, et donc ils ont besoin de moins d'argent. Et donc, on va définir une espèce de mesure géométrique qui dit, si vous êtes à l'extérieur, vous avez peu d'argent dans votre tirelire. Donc, au début, au temps t égale 0, on donne de l'argent en toutes les tirelires. Et on espère qu'on n'a jamais à en remettre de l'argent dans le système. D'accord ? Comme ça, l'argent du début sera une bonne supérieure sur l'énergie cinétique. Mais voilà le problème. C'est que ce qui peut se passer, c'est le suivant. Ceux qui sont à l'extérieur, effectivement, pendant assez longtemps, très doucement, ils vont vers l'intérieur, et donc ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ceux qui sont à l'intérieur, par contre, ils vont à droite et à gauche, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Très bien. Ah, sauf que voilà ce qui peut se passer à un moment. Deux peuvent se rencontrer, un de l'extérieur, l'autre de l'intérieur, et échanger leur rôle. Ils changent, ils se disent « Ah, tiens, moi, j'aimerais bien être comme toi, hein, venant de l'extérieur. » Et l'autre qui dit « Ah, ben, t'es moi, ça, j'aimerais bien être comme toi, venant de l'intérieur, j'ai envie de faire des zigzags. » C'est possible qu'ils changent leur rôle et que celui qui venait de l'extérieur se met à faire des zigzags et celui de l'intérieur se met maintenant à se comporter comme venant de l'extérieur. Et alors, il faut qu'ils échangent leur tirelire aussi. Parce que celui de l'extérieur, il a très peu d'argent, sa tirelire. On pensait qu'il n'allait pas beaucoup bouger, mais il a changé d'identité. Maintenant, il va bouger beaucoup, il a besoin de beaucoup d'argent. Et donc, il faut que ces deux agents, on l'appelle des agents maintenant, ils se disent « Ah ben attends, on va échanger notre tirelire. » Enfin, c'est bien joli comme ça, mais ça veut dire quoi? Ils échangent leur tirelire et quand, comment? C'est beaucoup plus subtil que ça. Il se peut aussi que quand ils échangent leur tirelire, celui de l'intérieur donne sa tirelire à celui de l'extérieur qui devient intérieur, mais ce n'est pas suffisant. C'est possible que celui qui maintenant devient intérieur fait des zigzags encore plus grands que celui originellement de l'intérieur allait faire. En d'autres termes, il n'y a pas assez d'argent. En d'autres termes, on essaie d'inventer une économie qui est profondément moyenâgeuse, ou même pas, c'est une économie de troc. Ou par exemple, si j'ai besoin d'argent, je viens vous voir et je vous dis, ben, écoutez, j'ai un peu d'argent, j'ai besoin d'argent, je vous l'emprunte, mais je vous le rembourserai plus tard, et tout ça. Oui, d'accord, peut-être, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Peut-être qu'on devrait faire comme ça. Non, on a des banques. Et le principe d'une banque, effectivement, c'est de, justement de ne pas avoir ces relations bilatérales, essayer de trouver quelqu'un qui a une chèvre ou un râteau et de faire des échanges et de faire un emprunt sur ça et ça. On va à une banque, enfin, quand tout se passe bien, la banque ne fait pas faillite. Bon, dans ce système-là que je vais décrire, les banques ne font pas faillite, donc c'est peut-être pas très réaliste, mais on va supposer que c'est comme ça. Et donc, on va inventer des banques, une banque. Et la banque va jouer un rôle fondamental. Parce que maintenant, voilà ce qui va se passer. On va oublier cette histoire de intérieur-extérieur qui se rencontre. C'est absolument impossible de définir ce truc-là. On va pouvoir simplement définir des règles d'échange. On va définir une économie. Et voici les règles d'échange. D'accord ? Règle numéro 1. En fonction de la position où vous êtes, vous êtes un sommet. En fonction de la position où vous êtes, vous devez avoir une somme d'argent au moins égale à temps. Alors, cette fonction, elle est publique, elle est publiée au journal officiel, et c'est une fonction pas simplement géométrique où vous êtes à l'intérieur de l'enveloppe convexe, mais ça dépend aussi des autres. Donc, c'est une fonction un peu complexe qui dépend de votre position vis-à-vis des autres. Est-ce que vis-à-vis des autres, vous êtes près de l'intérieur ou vis-à-vis des autres, vous êtes près de l'extérieur? On va définir une fonction, précisément, qui nous dit « Ah ben tiens, vous qui êtes au milieu, vous devez avoir tant d'argent. Et vous qui êtes sur le bord, vous devez avoir tant d'argent. » Et tout ça, ça va être bien défini. Règle numéro 1, vous devez respecter ça. Et quand vous bougez, alors le système marche comme ça, au tout début, la banque n'a pas d'argent du tout, zéro. Vous, par contre, on alimente votre tirelire, au début, en fonction de votre position. Bon, on regarde la règle qui est officielle, qui vous dit vous devez avoir 300 euros, vous devez avoir 200 euros, bah, très bien, on va vous donner ça. Ça va être la borne supérieure qu'on va obtenir. Ensuite, quand vous allez bouger, vous êtes forcé de payer votre énergie cinétique. Donc c'est un peu, vous êtes en voiture et vous roulez, bah, vous payez l'essence. Et donc quand vous vous baladez, vous payez la contribution de l'énergie cinétique qui est une fonction de votre trajet, de la distance que vous parcourez. D'accord ? Donc votre tirelire diminue parce qu'il faut payer. Et d'un autre côté, il y a cette règle qui vous dit à l'arrivée, eh ben voilà, nous sommes au temps égal 2, la règle vous dit vous devez avoir tant d'argent. Et vous regardez si vous en avez, et peut-être que vous n'avez pas assez. Parce que vous avez dû payer pour... vous n'avez peut-être pas assez d'argent au début. Et c'est ça le truc, parce que c'est vraiment algorithmique, c'est ça le génie de la chose. C'est impossible de savoir au début combien d'argent il faut donner pour que les gens en aient assez. Donc on ne va pas faire ça, d'accord ? On ne va pas essayer de donner de l'argent pour qu'ils en aient assez. Non, ce qui va se faire, c'est la chose suivante. Quand vous avez fini votre petit trajet, disons, de temps 1 au temps 2, vous allez regarder combien vous avez dans votre tirelire. Si vous avez plus d'argent que la loi vous oblige, vous allez déposer l'excédent dans la banque. D'accord ? C'est un dépôt que vous faites dans la banque. Parce que vous baladez pas avec trop d'argent, donc vous allez... Si par contre, vous n'avez pas assez d'argent pour payer le trajet, vous dites « Ah, j'ai pas assez d'argent, enfin si, j'ai payé mon trajet, mais maintenant, la loi me dit que je dois avoir 300 euros, ben, j'ai plus que 220 euros. Qu'est-ce que je fais ?» Vous empruntez de l'argent à la banque. Vous allez à la banque et dites « J'ai besoin de 80 euros. » D'accord ? Et donc, ce qu'on définit, c'est un algorithme. Un algorithme économique ou financier, si vous voulez, d'échange, et avec des règles de dépôt, de blablabla, blablabla. Et l'autre règle, c'est que la banque ne doit jamais avoir un découvert. Une banque ne peut pas emprunter à une autre banque, ne peut pas être banqueroute. Et donc, si jamais vous avez besoin d'argent, parce que la loi dit que vous devez avoir 200 euros et vous n'en avez que 150, vous allez à la banque ne va pas vous dire bah, « je suis désolé, mais j'en ai plus ». Non, il faut s'assurer que la banque en ait assez. Et la question, c'est la suivante. Est-ce que c'est possible de faire tout ça ? Est-ce que c'est possible ? Si c'est possible, alors ça y est, on a une borne supérieure, on n'a qu'à regarder combien d'argent il y avait au début du système. Comme l'argent n'est jamais injecté dans le système, de l'extérieur, jamais, l'argent reste tout le temps. L'argent n'est que redistribué. D'accord ? Et donc, il y a l'algorithme de mouvement des sommets qui bougent à droite et à gauche, qui font des zigzags, c'est un algorithme géométrique, c'est l'algorithme naturel de départ. On a inventé un autre algorithme qui maintenant est aussi un algorithme de transaction, mais c'est des transactions donc, financières où il y a une espèce de banque, il y a un autre agent qui s'appelle la banque, et l'argent passe à droite et à gauche dans tous les systèmes. Donc c'est très différent comme algorithme, mais il y a quand même une espèce de, pas un isomorphisme, mais il y a quand même, effectivement, ça calque quand même le système. Alors, les gens me disent, mais oui, donc c'est une fonction Lyapunov généralisée, distribuée, blablabla. Oui. Mais ça, à mon avis, c'est vraiment. Il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est. Une fonction de Lyapunov, l'équivalent, ça serait s'il n'y avait qu'une banque et pas de tirelire. D'accord ? Une fonction de Lyapunov, c'est quoi ? C'est un chiffre. À chaque étape, il y a un chiffre. Et ce chiffre, c'est un résumé du système. C'est un résumé en un chiffre. Et vous espérez que ce chiffre-là, il va dans le bon sens. Il descend, il ne devient jamais négatif. Voilà. Mais l'essence du truc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il y a une banque avec de l'argent qui descend. Non, ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est l'essence de ce système-là, c'est le fait qu'il y a un algorithme. Un algorithme d'échange, c'est ça le truc. Il faut trouver l'algorithme. Donc, il va falloir inventer un autre algorithme pour faire ça. D'accord ? Alors, j'ai dit que tout ça, c'est un super ensemble des chaînes de Markov. Donc, si vous me donnez n'importe quel théorème des chaînes de Markov, je devrais être capable de le lire au travers de ce système-là. D'accord ? Sauf que ça, c'est bien plus puissant. D'accord ? Pourquoi ? Donc, comme j'ai dit, c'est caché dans tout ça, en fait, ce qu'on étudie, c'est vraiment les produits de matrices stochastiques. C'est vraiment ce qu'on fait. D'accord ? Alors, je vais essayer de résumer, grosso modo, tous les travaux sur le mixage des chaînes de Markov en un transparent. D'accord ? Car il y a des tas de techniques très, très différentes, il y a des tas de bouquins qui ont été écrits là-dessus, mais elles ont toutes le même schéma. D'accord ? Et je vais vous le montrer, ce schéma. Donc, c'est une matrice stochastique. Voilà, ici. Matrice stochastique, on peut regarder la première rangée et considérer ça comme un point à quatre dimensions. D'accord. Et donc, on peut faire ça pour chaque rangée, on se trouve avec quatre points. Prenons l'enveloppe convexe de ces quatre points. On peut toujours faire ça. ça nous donne un polytope. Donc, avec une matrice stochastique, on a un polytope. D'accord ? Défini de façon tout à fait triviale. Mais on a un objet géométrique. On est parti d'une matrice, maintenant on a un objet géométrique. Si on en prend une autre, P2, eh bien on a un autre polytope. Ah, si on fait le produit P2, P1, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur ces polytopes ? On a un troisième polytope, parce que, car P2, P1, c'est stochastique. Hein. Le stochastique, c'est close ou invariance ou multiplication. Eh bien, voilà ce qu'on trouve, que le polytope du produit, on peut le mettre comme des poupées russes à l'intérieur du premier, toujours. D'accord ? Donc, le vert, le produit, on peut toujours le mettre, par translation, à l'intérieur du premier. Il y a la place, toujours. Ça, on peut prouver ça, c'est un théorème. D'accord ? C'est un théorème tout à fait fondamental, en fait. C'est rarement formulé comme ça, mais c'est la base de tous les travaux de mixage. Pourquoi ? Donc, en chaîne de Markov, les matrices sont toutes les mêmes. Donc, ça serait P, P, P au carré, P cube, et ainsi de suite. Donc, notre polytope, comme une poupée russe, il va diminuer. Ça, on l'a prouvé. La question, c'est de savoir comment il diminue. Un polytope, ça peut diminuer de tas de façons différentes. Et tous les théorèmes sur le mixage des chaînes de Markov, que ce soit des couplages ou n'importe quoi, il y a toujours l'étape intellectuelle suivante, de dire que quand on va d'un polytope à un autre, eh bien, ça rétrécit par un certain... Hein, alors, il y a beaucoup de possibilités de mesurer ça. On peut mesurer le volume, on peut mesurer le width, on peut mesurer le diamètre, on peut mesurer des moyennes quadratiques. Alors, si vous utilisez des valeurs propres pour faire ça, les gaps spectraux, hein, comment on dit en français, les écarts spectraux, tout ça, ce sont des mesures de ces polytopes. Bon, c'est des moyennes quadratiques de quoi que ce soit et tout. Mais le but est toujours le même, c'est de dire que quand on passe d'un à un autre, eh ben, ça rétrécit un peu. Par exemple, tous les trucs classiques où on regarde l'écart entre la deuxième valeur propre et la première, eh ben, cet écart-là, ça mesure le rétrécissement d'un à un autre. Mais voilà le problème. Ça ne peut pas marcher, ça, ici. C'est impossible. Je vous ai donné un exemple. Quand les matrices ne sont pas les mêmes et sont arbitraires, vous pouvez rester coincé pendant très longtemps où il n'y a aucun rétrécissement. Donc tout théorème qui dit à chaque étape ça rétrécit par temps est faux. C'est faux d'un point de vue logique. On ne peut pas quantifier comme ça. D'accord ? Donc c'est pour ça que, parce que ça c'est local, on fait une affirmation locale. À chaque fois il se passe quelque chose. Là, l'énergie S est très différente. L'énergie S, ça vous choisit une température S. Je dis température parce que dans les fonctions de partition, en fait, c'est en physique, c'est l'équivalent le plus proche des fonctions de partition. On choisit une température et l'énergie S, c'est un nombre, mais un nombre qui vous dit quelque chose sur toute la trajectoire infinie. C'est une intégrale, enfin, une somme sur tout ça. Et si vous choisissez un S différence, vous vous baladez le long de ça. Mais ça peut rester coincé pendant très longtemps et ensuite rétrécir très vite. Ça n'essaie pas de voir s'il y a toujours à chaque fois ça rétrécit. D'accord ? Et alors, il y a des raisons plus profondes pour lesquelles les méthodes d'algèbre linéaire ne peuvent pas marcher. D'accord ? Les raisons techniques, qui, à mon avis, c'est un peu stupide, mais les raisons techniques, c'est les suivantes. Ces produits de matrices, ces matrices ne commutent pas, d'accord ? Et elles n'ont aucune raison de commuter, et donc elles n'ont pas de base propre commune. Si elles n'ont pas de base propre commune, ça ne sert à rien de regarder les valeurs propres, d'accord ? Parce que à chaque fois, vous êtes une espèce de rotation. Il y a un mélange complet, donc... Souvenez-vous du principe philosophique numéro 1 de l'algèbre linéaire, c'est de réduire la dimension. Mais si à chaque fois vos valeurs propres, vos bases propres, elles changent, sans parler du problème que généralement, très souvent, il n'y aura pas de base propre, parce que ces matrices ne sont pas forcément diagonalisables. Mais ça, c'est le moindre des problèmes, même si elles l'étaient, même si elles, par exemple, réversibles. Pas de problème là. Ça n'empêche que. À chaque fois, il y a une espèce de mélange complet qui annihile toute l'algèbre linéaire. Donc tout ce qui est basé sur les fonctions de Lyapunov, qui sont des polynômes quadratiques ou cubiques ou n'importe quoi, de toute façon, ça, c'est comment on dit en anglais, DOA. Vous pouvez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, effectivement, on peut récupérer toutes les théories de mixage sur le... Alors, ce que j'ai fait là, c'est quoi? C'est prendre un système qui est en fait exogène. C'est-à-dire qu'il y a un système dynamique qui évolue, mais les changements sont arbitraires. On a pu prouver quelque chose, mais c'est un miracle. Ça ne va pas se reproduire, ça. Les matrices sont complètement arbitraires et on peut quand même prouver quelque chose. C'est quand même... c'est parce que ce stochastique, c'est tellement puissant qu'il se passe quand même des choses. Bon, très bien. Mais ce qu'on va regarder dans les jours qui suivent, ce sont des systèmes qui sont plus complexes, qui sont endogènes. C'est-à-dire que c'est des systèmes où les matrices, maintenant, elles vont changer, non pas de façon arbitraire, mais elles vont changer en fonction du système lui-même. D'accord ? Il va y avoir une boucle de feedback. D'accord ? Et là, on pourra prouver des choses sur des graphes différents. Là, ça, vous pouvez poser la question, mais est-ce que ça marche pour les graphes qui sont orientés ? La réponse est non. Cette théorie s'écroule complètement si les graphes sont orientés. D'accord ? Et ça, c'est facile de voir qu'on ne peut rien prouver de façon arbitraire pour les graphes orientés. Donc, pour les graphes orientés, il va falloir considérer des systèmes dynamiques endogènes où il y a le système se nourrit, sa dynamique se nourrit lui-même. Et là, on pourra prouver des choses. D'accord ? Donc, et là, je vois qu'il est passé 4 heures, et donc... Non, passé 3 heures. Et donc... Et donc, je vais m'arrêter et je vais donc laisser la place à mon vieil ami Herbert Edelsbrunner, professeur à IST, à l'Institut de sciences et technologies autrichien, un nouvel institut de physique d'informatique qui a été créé à Vienne. Herbert a fait une longue carrière illustre aux États-Unis, un des pionniers de la géométrie algorithmique, s'intéresse beaucoup à la topologie algorithmique depuis longtemps, c'est un des fondateurs du sujet, écrit plusieurs bouquins à ce sujet, et donc il va nous parler d'homologie, je crois. Et 5 minutes avant de changer l'ordinateur et tout ça. Merci.